Nous arrivons enfin à la fin de l'évangile de Matthieu. Je finis le Matthieu 24 et je vais lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 44. Cette prédication est la fin de la grande tribulation. Je lis à partir du verset 27 de l'évangile de Matthieu chapitre 24. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, les cadavres là s'assembleront, les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes de Fils de l'homme paraîtra dans les cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous verrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, et il ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi je vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas et l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Fin de la lecture du chapitre 24. Alors, au plus nous avançons vers le deuxième retour de Jésus-Christ, plus la situation mondiale sera de plus en plus critique. Nous remarquons déjà cela aujourd'hui dans notre actualité. Les hommes se demanderont si la délivrance viendra un jour, et ceci donnera des faux Christ l'occasion de tromper encore beaucoup plus de personnes. Satan est capable d'accomplir des faux prodiges. Satan a trompé dans le passé, il continuera à tromper son monde jusqu'à la fin. Apocalypse 13 nous le signale au travers du verset 13 et 14. Le fait qu'un chef religieux accomplisse des miracles n'est pas une preuve que cela vient de Dieu. Beaucoup de Juifs seront trompés par les miracles de Satan. Du temps de Jésus, les Juifs demandaient des miracles. Paul l'a répété à l'église de Corinthe. Jésus a accompli des miracles et des prodiges, et le peuple l'a quand même rejeté. Même la nation juive, comme le monde, acceptera les miracles de Satan. La nation juive, comme le monde, oui, accepteront les miracles de Satan. Alors, nous allons regarder au travers de cette lecture qui a été faite avant d'aborder les paraboles que Jésus est en train de parler à la fin du chapitre 24, la parabole du figuier, la parabole de Noé, et enfin la parabole d'un voleur dans la nuit. Alors, quelques avertissements. Premièrement, remarquez le verset 27. Il indique que le retour de Jésus, donc le deuxième retour de Jésus, sera soudain comme l'éclair. L'avènement qui précède son retour est le rassemblement des nations non-juives à Armageddon. Apocalypse 16 nous en parle, ainsi qu'Apocalypse 19. L'image des aigles planant au-dessus des cadavres représente l'affreux carnage qui résultera de cette grande bataille. Apocalypse 19 nous en parle. Le changement dans l'univers mentionné dans Matthieu, chapitre 24, verset 29, précédera le retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous ne savons pas quels sont les signes du Fils de l'homme, mais les gens sur la terre à cette époque le reconnaîtront, puisque la Bible nous en donne quelques illustrations au verset 29. Il nous dit que le soleil s'obscurira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tombera du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà un petit peu quelques signes de l'avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus reviendra pour prendre son Église, celle restée sur la terre durant la grande tribulation, il viendra dans les airs et son peuple s'élèvera pour le rencontrer dans les airs. Mais la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la période de la grande tribulation sera un avènement public. La Bible nous dit que tout œil le verra. Cet avènement aura une grande signification pour Israël. Pourquoi ? Car quand Jésus reviendra, alors pour Israël, dans cette période, on nous est parlé que Zacharie, chapitre 12, nous en parle. Il délivrera son peuple, celui-ci le verra et reconnaîtra en lui son Messie. Apocalypse 12 nous en donne tous ces détails. Le problème, bien souvent, c'est qu'on se trompe souvent sur la trompette qui est parlée dans Matthieu chapitre 24 et la fameuse trompette mentionnée dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. En attendant, le Seigneur nous donne au cours de ces événements que nous venons de lire un petit peu quelques exemples de cette période très 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 difficile pour la terre durant cette période. Alors, avant de regarder un petit peu les détails des paraboles dans la fin du chapitre 24, je voudrais vous donner un petit ordre chronologique des événements de l'enlèvement des chrétiens sur la terre. Tout d'abord, premièrement, l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous le précise. Cela se produira à n'importe quel moment. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de la grâce et Dieu, quand il le décidera, enlèvera son Église. Après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist se mettra à la tête des 10 nations et conclura un accord avec Israël pendant une période de 7 ans. Daniel chapitre 9 nous en parle. Après 3 années et demie, il brisera cet accord. Daniel chapitre 9, verset 27. Il entrera à Jérusalem et il établira un culte dans le temple. Apocalypse chapitre 13. Cinquièmement, l'Antichrist attendra sa domination sur le monde et contraira tous les hommes à l'adorer et à lui obéir. Pendant ce temps, Dieu enverra de grandes tribulations sur la terre. Sixièmement, les nations se rassembleront à Armageddon pour lutter contre l'Antichrist et Israël, mais ils verront les signes du retour du Christ et ils s'uniront pour combattre celui-ci. Apocalypse 13, Zacharie 12. Et enfin, le dernier, Jésus reviendra sur la terre, renversera ses ennemis, sera accueilli par les Juifs et il établira son royaume sur la terre et il règnera là pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 5. J'ai lu récemment dans un livre une petite phrase qui m'a interpellé. Le but d'une prophétie n'est pas de divertir les curieux, mais de nous encourager et nous consoler. Bien souvent, quand on lit les prophéties, eh bien, les gens ont une attitude curieuse, mais le but d'une prophétie est de nous encourager et de nous consoler. Maintenant, regardons ensemble les 3 paraboles qui sont citées par Jésus à la fin du chapitre 24. Tout d'abord, la parabole du figuier, chapitre 24, versets 32 à 35. Le figuier dans la Bible représente souvent Israël. Les autres arbres sont les nations du monde entier. Exemple, le cèdre est l'image de la nation du Liban, et nous pourrions comme cela multiplier d'autres arbres dans le monde entier. Notre Seigneur suggère peut-être qu'une montée du nationalisme serait un des signes de la fin des temps. Quand il arrivera, en tout cas, Israël sera au courant. Et comme l'apparition du bourgeon indique que l'été approche, eh bien, le Seigneur sera dans son retour. La génération vivant sur la terre, à ce moment-là, verra cet avènement se produire. Notre génération ne verra pas que les indices de ce signe. Imaginez un petit peu un instant que un coronavirus soit répété. L'économie mondiale peut tomber en quelques semaines. Mais nous ne savons pas l'issue de ces signes et Jésus ne peut venir prendre son Église à n'importe quel moment. En attendant, le Seigneur nous demande d'être prêts. Il demande d'être prêts aujourd'hui, avant l'enlèvement de l'Église, et il demandera aussi aux chrétiens qui se convertiront pendant cette grande tribulation d'être aussi prêts. Deuxième parabole, les jours de Noé, versets 36 à 42. Dans ces quelques versets, l'accent est placé sur le fait que les gens ne savaient pas quand le jugement frapperait. Noé et sa famille dans l'arche sont une image de la préservation miraculeuse d'Israël pour Dieu pendant la période atroce de la grande tribulation. Enoch dans l'Ancien Testament représente l'Église qui est enlevée avant la tribulation. Qu'est-ce qui empêche les gens d'écouter le message de Noé et d'y obéir? C'est un petit peu la même chose, n'est-ce pas, aujourd'hui. Les préoccupations normales de la vie des gens, aujourd'hui, c'est un petit peu la tête dans le guidon. L'importance, c'est le manger. On l'a vu récemment avec le fait que le gouvernement nous a demandé de nous confiner. Eh bien, les priorités, c'était le manger, le boire, se marier ses enfants. Ils ont manqué le meilleur en vivant une vie tout simplement. Il est dangereux d'être si absorbé par les intérêts de la vie qu'on en arrive à oublier le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui arrive parfois chez beaucoup de chrétiens. Mes intérêts, ma vie, mon plaisir, nous oublions ce qui est essentiel, Jésus-Christ. Et nous vivons aujourd'hui comme cela parfois dans nos vies. Mes intérêts, ma vie, mon plaisir d'abord. Troisième parabole, et ça sera la dernière, le voleur dans la nuit. Jésus utilise l'exemple de Noé pour avertir que personne ne connaîtra le jour de son retour, et il utilise l'image du voleur pour montrer que personne n'en connaît ni le jour ni l'heure. Après l'enlèvement de l'Église viendra une période de paix et de sécurité sur la terre. Puis, tout à coup, le jugement de Dieu tombera les uns après les autres. Et je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. Je lis à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre 3 de 2 Pierre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, le Seigneur, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère. Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est que celui qui c'est, pardon, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres et où il parle de ces choses dans lesquelles il n'y a point des points difficiles à comprendre. Donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Voilà le texte que je voulais terminer. Oui, le Seigneur, comme nous le rappelle au travers de plusieurs passages de la parole de Dieu, le Seigneur viendra comme un voleur. Et les chrétiens d'aujourd'hui, avant la tribulation, comme les chrétiens pendant la tribulation, eh bien, devront être prêts à cette heure, parce que le Seigneur viendra, bien sûr, avec fracas, et les gens ne connaîtront pas le jour ni l'heure de ce moment-là. Alors, je voudrais conclure cette dernière prédication du chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu par cette conclusion. Quand nous rassemblons toutes ces exhortations données par ces trois images, eh bien, je pense que notre but est de lever la tête et de prendre courage. Bientôt, nous serons délivrés. Le Seigneur va revenir. Il l'a promis. Il l'a promis aux siens, déjà, à l'époque, quand il parlait à ses disciples. Il nous en fait encore aujourd'hui cet encouragement. Ce qui arrive aujourd'hui sur la terre, pour moi, n'est qu'un avertissement et un encouragement. Un encouragement, parce que tout simplement, le Seigneur veut rappeler à l'humanité que les hommes doivent être jugés et se repentir. Voilà un petit peu l'avertissement. L'encouragement, c'est que cette période qui peut peut-être être pour nous une période trouble, eh bien, elle est un encouragement aussi pour nous. Récemment, j'ai lu un article dans Portes Ouvertes. C'est ce livre que nous recevons, ce magazine que nous recevons de temps en temps pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Et Portes Ouvertes a fait récemment un article que vous pouvez trouver. Cet article se nomme « Le fil rouge ». Eh bien, les chrétiens ont été encouragés par le coronavirus en Chine et ça a changé bien des situations. Et je vous encourage à lire cet article sur Internet. En tout cas, le Seigneur nous demande à veiller, à être vigilants et à être fidèles. Je pense que c'est ce que le Seigneur voulait dire au travers de cette grande tribulation, mais en même temps, c'est pour nous aussi un encouragement à nous à veiller, à être vigilants et à être trouvés fidèles. Que le Seigneur puisse conduire et diriger son Église à veiller, à être vigilants et à être fidèles. Amen.